Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction, podcast numéro 534. Avec moi aujourd'hui, nous avons Thomas, médecin dans
Hey.
l'Oise. Ah, pardon, non, désolé, j'ai trop regardé les infos ces derniers jours.
Appelez-moi docteur, s'il vous plaît.
Oui, pardon. Ça va, Thomas, depuis
Ouais,
Chantilly? Tu
bah,
n'es pas
très
venu à la
bien.
rédac cette fois, tu es resté
Bah
chez
non, parce que
toi.
t'es là.
Et oui, et alors
Comme il faut pas te
maintenant,
saquer, bah.
on commence à se déconfiner et on commence un peu à tourner. Et comme vous pouvez le voir, je suis à la rédaction. Avec un joli mur, c'est génial. C'est pas du tout anxiogène. Il faudra peut-être qu'on pense à le changer un jour. Romain, en
Oui.
direct de Levallois, où il y a des jolis travaux que nous n'entendons pas pour le moment, mais qui te cassent un peu les oreilles. J'espère néanmoins que ça va pas
Ça
te
va, ça
prendre trop la tête.
va. Non, ça va. Après 3 mois de calme, d'un calme plat, c'est vrai qu'il faut reprendre le boulot dans tous les sens du terme. Et donc,
Eh oui.
eux aussi sont de retour sur les chantiers pour notre plus grand plaisir.
C'est aussi ça, le monde d'après. Alors, le monde du podcast, lui, ce sera trois thèmes cette semaine. Trois thèmes assez logiques, vous allez voir. Enfin, surtout les deux premiers. Le troisième est une petite surprise. Le premier, ça concernera évidemment la PS5, puisque la semaine dernière, ça s'est énormément agité autour de la prochaine console de Sony. On aurait dû avoir quelque chose cette semaine. En plus, ça a été annulé, eh bien, la veille de notre enregistrement. Donc, eh bien, nous allons en parler évidemment tout à l'heure. Le thème numéro 2, encore du côté de chez Sony, parce que évidemment, il y a aussi des jeux PS4 qui sortent, des jeux très attendus. Après Ghost of Tsushima, qui a été montré il y a 2 semaines, c'est The Last of Us Part 2 qui lui a été remontré aussi, mais que Thomas a pu essayer, ce petit bâtard, comme on dit chez nous.
Eh oui.
Et il vous en parlera évidemment tout à l'heure,
Docteur Bâtard, s'il vous plaît.
sans spoiler évidemment, parce qu'il
Bien
n'y a
entendu.
pas, il n'y a pas de raison qu'on spoile. Et le troisième thème, ce sera eh bien un jeu surprise de Konami. Alors là, les bras m'en tombent. Enfin, je fais semblant d'avoir les bras qui m'en tombent parce que c'est moi qui l'ai testé. Donc ça fait au moins 15 jours que je suis au courant. Mais oui, Konami édite un nouveau jeu. Ce n'est pas du Yu-Gi-Oh! C'est pas du PES. C'est pas du Pachinko. C'est pas des compilations de Castlevania ou un contrat foireux. Non, non, c'est un nouveau jeu qui s'appelle Scale Attack, qui vient d'un petit studio indépendant et qu'on va vous décortiquer rapidement tout à l'heure après avoir fait le test. Évidemment, les rubriques habituelles, vous les connaissez. On finira avec l'anniversaire et le hors-jeu. Mais tout de suite, on commence avec le win et le fail avant de passer à Il y a 10 ans sur Gameblog. Le win de la semaine. Mon cher Thomas.
Eh bien, c'est pour vous, les jeunes, vous qui
Ah.
ne passez. Ouais, alors non, pas toi, du coup, tu n'es
Ah.
pas directement concerné. Les vrais jeunes, ceux qui ne passent pas à l'oral du bac cette année et qui vont donc probablement accéder aux études supérieures derrière et qui voudraient peut-être aller savoir travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, on a appris la semaine dernière qu'il y a une bourse qui va être lancée pour les étudiants français. Grâce au collectif Helloasso. C'était quelque chose qu'on avait découvert pendant la cérémonie des Pégases 2020 et qui, du coup, là, va véritablement prendre forme. C'est une plateforme que vous avez en lien sur la news que tu as rédigée, mon cher Plumeau, qui est donc sur Gameblog, qui va vous permettre, eh bien, de postuler sur dossier à ce financement de vos études supérieures. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui nécessitent d'être précisées. Pour l'instant, c'est une ouverture de dossier. Vous aurez dès demain, donc jeudi, si on compte la diffusion de ce podcast à 19h, une réunion d'information de 45 minutes où vous pourrez poser toutes vos questions en direct sur une plateforme qui est également citée en lien dans la news de Gameblog. Et bah, du coup, si vous faites partie des 5 élus tirés au sort, eh bien, vous allez pouvoir voir vos études être financées pendant toute la durée de ces dernières. Donc, il faut évidemment que ça concerne une école de jeux vidéo, en tout cas qui, de près ou de loin, concerne le domaine du jeu vidéo dans sa création. Et bah, c'est une superbe initiative que l'on doit notamment à l'association Loisirs Numériques, présidée, je te cite mon cher Plumeau, par l'ami Michael Newton,
Absolument.
et qui avait été également dévoilée par la patronne de Spider Studio, Joanne Rousseau. Donc c'est une très belle initiative, et bah, si jamais vous êtes intéressé, forcément, puisque vous l'avez appris par chez nous, vous serez contractuellement obligé de nous réserver l'exclusivité de votre
Absolument.
premier jeu, ainsi qu'une interview en bonne et due forme. Voilà, c'est dur, mais c'est la vie.
Eh oui, effectivement, il faut vous y préparer. Vous avez jusqu'au 19 juin donc pour vous préinscrire, pour eh bien être pris ou pas sur dossier. Normalement, oui, vous allez être pris. Enfin, moi, je connais du monde, hein, je vous le dis, vous allez être pris. Il n'y a pas de souci. Et voilà, et
Cinq
rendez-vous dans
places, hein.
5, voilà, et rendez-vous dans 5 ans, donc quand vous aurez sorti votre premier jeu sur PS5, qui va tout révolutionner et que bah, vous serez ici avec nous. pour répondre à vos premières interviews et nous avouer que la PS6, bah, c'est de la merde. Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. On va passer au fail de la semaine. Alors, c'est un fail assez particulier. Je dois avouer que la news m'a beaucoup fait rire. Ça concerne un pilote de Formule E, donc un pilote de la vie réelle, qui s'est fait éjecter de son écurie parce qu'il a triché en virtuel. Romain, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Je n'ai rien compris.
Ouais,
je trouve ça complètement farfelu.
Ouais, l'histoire est assez originale et personnellement, je trouve que les conséquences de cette histoire sont peut-être un poil exagérées. Mais bref, donc Daniel Abt, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, il est allemand, pilote chez Audi depuis un certain nombre d'années en Formule 1 justement. Et comme de nombreuses autres ligues sportives, bah, ils ont décidé d'utiliser le temps du confinement pour organiser des compétitions virtuelles via des jeux vidéo. Et donc, devait y avoir une course en ligne opposant de vrais pilotes, de vrais pilotes dans la vie réelle, on va dire. Et ils devaient se mesurer les uns les autres au cours d'un Grand Prix virtuel. Sauf que ce bon Daniel Abt a eu la bonne idée de faire appel à un joueur, on va dire chevronné, un sim racer, je crois que c'est l'expression consacrée, pour concourir à sa place. Alors, il s'est fait pincer. Je précise que le sim racer n'a pas gagné la course, hein, il est arrivé troisième. Mais bon, il a quand même fini parmi les premiers. Mais donc, Daniel Abt s'est fait pincer. Il s'est chopé une amende de 10 000 dollars, donc en serious business, hein, qu'il s'est engagé à reverser à une œuvre caritative. Et Audi, donc son écurie dans la vie réelle, a très mal pris les choses et a décidé dans la foulée de le suspendre dans un premier temps. Donc ça, c'était une punition temporaire. Mais ils étaient... Il faut croire très remonté, parce que dans les jours qui ont suivi, ce bon Daniel Abt a laissé un message dans lequel il explique que finalement, bah, ils ont tout simplement mis un terme à leur collaboration avec lui. Donc en gros, il s'est fait virer parce qu'il a triché. Alors il a essayé de s'expliquer, il a dit que l'idée de base, c'était de mettre en lumière les compétences du sim racer, en fait, de montrer ce qu'il était capable de faire. Il voulait pas absolument gagner cette course parce qu'il y avait aucune retombée financière pour lui. Ça n'avait même pas d'impact sur son classement dans la vie réelle. Donc c'était une course pour le fun. C'est comme ça que lui présente les choses. Il explique qu'il n'avait pas utilisé de VPN pour essayer de cacher la chose, qu'il voulait pas cacher le truc. Moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire, c'est que bah, si tu voulais pas cacher le truc et que tu voulais mettre en lumière le fameux sim racer, bah, pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Tu vois, pourquoi tu n'as pas présenté le truc ? Ou pourquoi ne pas avoir cherché à faire en sorte que la compétition soit d'emblée ouverte à des représentants des vrais pilotes ? Tu vois, à dire tel pilote choisit tel compétiteur s'il ne veut pas concourir lui-même, pour qu'au moins tout le monde soit au courant et potentiellement sur un pied d'égalité. Donc son excuse, elle a le mérite d'exister. Je ne suis pas totalement convaincu par le fond de ce qu'il raconte, mais à côté de ça, je trouve que c'est un peu exagéré de l'avoir renvoyé pour ça, quoi.
Ah bah, c'est plus qu'exagéré. Enfin, je dirais, ils ont pété un plomb. C'est pas possible. Ça me paraît mais absolument délirant pour quelque chose qui est quand même pas du serious business.
Non, c'est pas
comme ça. Vous n'avez pas compris, le mec voulait juste faire une Scooby-Doo, tu vois, il voulait gagner la course, et en arrivant sur le podium, il dit « Eh non, regardez, c'était le sim racer machin », et là, ça aurait eu un peu d'effet, tu vois.
Ouais, voilà.
Il a... Je sais pas du tout ce qui lui a appris, mais le...
Ouais, il a envie de gruger, c'est tout. Oui, voilà, après, on parle d'un truc virtuel qui a aucun impact, qui sert à rien. Je veux dire, c'était même pas un événement caritatif. Termes d'image, je veux dire, bah, ok, ouais, t'as grugé dans un jeu virtuel, dans un jeu vidéo.
Alors, ouais, c'est juste Audi en fait. Oh. C'est juste Audi qui a déterminé que son image de marque avait été salie par ce genre de pratique, et peut-être qu'il voulait montrer que d'une manière générale, il ne cautionne pas la triche. Tu vois, c'est quelle qu'elle soit.
Bon, ça n'empêchera pas Thomas de rouler en Audi A8, évidemment, comme à chaque fois dans les travées de Chantilly à 200 km/h.
Ah bah, je te dis, les droits d'auteur de Bronski Beat, ça rapporte.
Les Communards aussi, les Communards. N'oublie pas, les Communards, c'était quand même les deux groupes de Jimmy Somerville avant qu'il passe en solo, évidemment. Sacré Jimmy, va. On va passer maintenant, comme chaque semaine, à avec Jimmy, évidemment, à Il y a 10 ans sur Gameblog. Alors, mon cher Jimmy, il paraît que Never Gonna Say Goodbye. Donc, je te laisse parler des trois news que tu as sélectionnées cette semaine qui sont parues il y a 10 ans. La première, elle concerne un jeu qui nous est très cher.
Mais c'est une belle prédiction. Alors oui, ça concerne indirectement Chrono Cross puisque c'était son scénariste qui s'exprimait sur le futur du jeu vidéo. En l'occurrence, Masato Kato, qui était scénariste de Chrono Cross, notamment aussi de Xenogears, un de tes plaisirs coupables, mon cher Plume.
C'est pas coupable du tout, Xenogears, c'est un des meilleurs
jeux. Final Fantasy XI. Oui, non, mais je dis coupable parce que moi, j'ai pas encore joué, donc je ne sais toujours pas ce que ça vaut, Xenogears.
Donc s'il y a pas joué, il part du principe que c'est de la merde.
Exactement.
Donc,
Vous surinterprétez complètement mes propos.
T'as dit plaisir coupable.
Ah oui.
Donc, si c'est coupable, c'est que c'est pas terrible.
Tu vas te retrouver sur Twitter, toi, dans les out of context, Thomas, et voilà, c'est tout ce que tu auras gagné.
Out of context, Jimmy, pour rester cohérent. Bref, en tout cas, Masato Kato sortait sa boule de cristal, pour le coup, et nous faisait une petite prédiction, puisque il y a une dizaine d'années, Apple arrivait tranquillement sur le marché du jeu vidéo et surtout lançait ce drôle de machin qu'est l'iPad, une tablette dont on entend encore éventuellement parler aujourd'hui. Et les constructeurs traditionnels s'inquiétaient justement de l'arrivée du géant de l'informatique dans le game du jeu vidéo. Et Kato, lui, alors qu'on était en pleine furie, frénésie de Wii et de DS du côté de chez Nintendo, nous balance sa prédiction sur l'avenir du jeu vidéo en nous disant que désormais, avec l'iPad qui est disponible à la vente, le temps de Nintendo est révolu. Avec la DS et la Wii, Nintendo est en train de creuser sa propre tombe. Donc, on est en 2010, Nintendo est en train de surfer sur une vague absolument insolente de succès critique et commercial, et Kato s'imagine que Apple va venir complètement grignoter les parts de marché de Nintendo et que ce dernier va, comme chacun sait, mourir 10 ans plus tard. On sait évidemment que tout ceci ne s'est pas exactement passé comme prévu et que Apple, même si il a réussi à insuffler quelque chose d'un peu nouveau dans la consommation du jeu vidéo à travers l'Apple Store et ce genre de trucs, est aujourd'hui plutôt sur le marché de l'Apple Arcade, avec le succès qu'on sait pour l'instant. Donc, on espère que ce cher Kato s'est mordu les doigts avant de nous refaire une prédiction à la Pacteur.
Ce cher Kato. Ce qui est amusant, c'est que dans un premier temps, quand la Wii U est sortie, ça se trouve, il était là. Je vous l'avais dit que c'était fini, que c'était raté.
Mais ça pouvait marcher.
Par contre, c'est vrai que l'iPad et l'iPhone, etc., a totalement bouleversé le marché du jeu vidéo à diverses manières.
Ouais,
on sait que le jeu sur plateforme mobile et sur appareil Apple, dans un premier temps, a causé beaucoup de tort à la PS Vita, par exemple. Parce qu'au moment où elle sort, c'est un moment où le jeu mobile est sur toutes les lèvres et en termes de jeu portable, avait quand même gagné pas mal de terrain.
Donc, pas cher, intuitif, tactile.
Ouais. Donc il avait pas tort sur toute la ligne. Il a juste peut-être été trop loin dans sa.
Il fallait pas dire que Nintendo allait mourir. Il fallait rester au part de marché d'Apple.
On va rester chez Nintendo pour la deuxième news que tu as sélectionnée, puisque c'est Shigeru Miyamoto qui s'est exprimé il y a 10 ans.
En personne. Et oui, du temps où Iwata était encore président de Nintendo, on avait de fantastiques interviews pleines d'anecdotes super intéressantes qui s'appellent les Iwata Asks, qui sont restées d'ailleurs en ligne si vous voulez aller les consulter. Et là, puisque allait sortir Super Mario Galaxy 2, Miyamoto et une partie de son équipe s'étaient entretenus avec feu Satoru Iwata sur le développement de cette suite que Julo était en train de tester à l'époque et qui le faisait apparemment quelque peu rager, à en croire l'article. Et ce qui m'intéresse, c'est que Miyamoto parlait alors d'abord d'immersion pour expliquer qu'il se posait pas mal la question de savoir s'il fallait encore inclure des scènes cinématiques ou pas. Mais surtout, ce que j'ai relevé, c'est sa déclaration où il expliquait qu'en fait, Super Mario Galaxy 2 était un véritable challenge, même pour lui. Et je cite, je dirais qu'il est 20% plus difficile que l'épisode précédent. Quand je joue seul la nuit, je m'énerve tout seul, je tape sur la table et je me mets à crier. C'est un jeu difficile, mais qui donne toujours envie de recommencer. Les joueurs qui se mettent en tête de maîtriser le jeu pourront compter sur une grande marge de progression. Et j'ai trouvé ça assez étonnant de la part de Miyamoto, qui, pourtant, depuis plus d'une dizaine d'années, est quand même un peu le game designer qui veut rassembler les joueurs et essayer de trouver un niveau moyen de difficulté qui parlerait à tout le monde et qui serait ouvert au plus grand nombre de joueurs possible. Et de l'entendre publiquement déclarer que le jeu sur lequel il travaillait était difficile et que même lui rageait dessus, j'ai trouvé ça assez étonnant parce que je crois que c'est l'une des rares déclarations qu'il a pu avoir durant ces au moins 15 dernières années qui allait justement dans le sens un petit peu opposé en affirmant qu'il avait travaillé sur un jeu qui était volontairement difficile.
Après, c'est vrai que Galaxy 2 est plus difficile que le premier. Mais si tu regardes la production des jeux Mario spécifiquement de ces dernières années, Nintendo joue un peu sur les deux tableaux. Parce que d'un côté, tu as des options qui te facilitent grandement la tâche, comme par exemple dans les New Super Mario Bros, tu as le système de la bulle, tu sais, si tu veux réavancer plus vite, qu'il y a un passage que tu n'arrives pas à relever, etc. Mais à côté de ça, tu as des expériences beaucoup plus dures comme Super Mario Galaxy 2 ou même New Super Luigi 2. Luigi U. Qui était quand même la version vénère de New Super Mario Bros. U. Donc tu vois, il joue un peu, vis-à-vis de la difficulté, il continue de jouer un peu sur les deux tableaux. Et pour le coup, c'est un moyen de contenter tout le monde aussi. Les gens qui cherchent du défi dans leur jeu et ceux qui ont besoin de jouer plus à la coude, mais pas se sentir frustrés quand ils n'y arrivent pas.
Alors l'astuce, évidemment, à l'époque, c'était l'arrivée d'un deuxième joueur qui pouvait, comme dans Super Mario Galaxy, ouais, bien piloter un pointeur et puis balancer des projectiles et aussi éventuellement arrêter certains objets à l'écran. Mais voilà, c'était quand j'ai relu cette déclaration, ça m'a un peu frappé parce que c'était vraiment aller à l'encontre du reste. Et pour finir, eh bien, on parlait de prédictions en début de rubrique. Et là, je vous sors la carte Michael Pachter, qui
une autre légende du jeu vidéo.
Légende de la prédiction et de la boule de cristal, qui s'exprimait sur un sujet dont on vous a beaucoup parlé ces dernières semaines. Les DRM, puisqu'on était en plein dedans il y a quelques années, et il y a quelques semaines, rappelez-vous, on vous parlait justement de l'arrivée des DRM chez Ubisoft, qui avait soulevé un petit peu son vent de polémique chez les joueurs en arrivant. Et on sait que 2 ans plus tard, Ubisoft allait revenir finalement sur ses envies de contrôler un petit peu l'accès aux jeux PC et rebasculer sur un modèle tout à fait normal. Et ce bon pacteur, en 2010, nous expliquait que le système d'Ubisoft était une décision très intelligente et qui l'abondait dans son sens. Alors, en expliquant avec un raccourci qui était dénoncé avec un style un peu caustique à l'époque dans la news, il assimilait finalement le vol à la contrefaçon, en expliquant que pour lui, pirater un jeu sur Internet et puis rentrer dans un magasin, prendre un exemplaire et s'en aller, c'était du pareil au même et que du coup, c'était une très bonne décision de la part d'Ubisoft de réguler comme ça l'accès à ces jeux sur PC. Alors, tout le monde y passait, hein, les responsables de BitTorrent qui étaient visiblement en prison selon lui. Enfin, il mélangeait un peu tout, il balançait sa déclaration qui ne va pas dans le sens de l'histoire et qui a été, on va dire, démentie par les faits quelques années plus tard. Et une fois de plus, on aime bien se moquer de lui, hein, mais à l'époque, je crois que c'est Fasquille qui en parlait, nous disait qu'après avoir lu sa déclaration, il avait eu l'impression de regarder un reportage de France 2 sur le sujet du jeu vidéo, ce qui n'est évidemment pas un compliment dans sa bouche.
Très bien. Eh bien, écoute, on va pouvoir passer au premier thème, du coup, de ce podcast. Messieurs, on va parler de la PS5. Alors, c'est pas la console qu'on a le plus vue cette année, c'est pas celle dont on a vu le plus de jeux, il faut le reconnaître, mais on en parle et on n'arrête pas d'en parler. La semaine dernière, donc, ça a beaucoup bougé. Alors, il y avait ces dernières semaines des rumeurs, des déclarations de journalistes bien renseignés aussi, hein, qui faisaient état de l'arrivée d'une présentation de la part de Sony autour de la PS5. On a enfin eu une confirmation la semaine dernière, en fin de semaine dernière, qu'il y aurait une présentation le 4 juin et non pas le 3, comme insistait sur la date sur laquelle insistait Jason Schreier et Jeff Grubb.
C'est juste pour les faire mentir.
Oui, non, franchement, c'est vraiment histoire de dire, parce que sinon, bravo les mecs, hein, si vous avez quand même eu des super infos. Mais toujours est-il qu'il devait y avoir cette présentation ce jeudi 4 juin à 22h. Et que ce lundi 1er juin, dans la soirée, Sony a annoncé le report de cet événement. Un événement donc sur lequel on peut à peu près s'exprimer parce qu'on savait ce qu'il y aurait à l'intérieur. Jim Ryan, donc le patron de PlayStation, en a même profité au moment de l'annonce. Incroyable le timing d'ailleurs, j'en reviens toujours pas à quel point c'est super, c'est le hasard, la coïncidence la plus pure. Au moment où cette annonce était faite la semaine dernière, Jim Ryan parlait dans les colonnes de Games Industry et d'autres canards comme ça. Et donc on devait avoir une présentation de jeux PS5, hein, c'était bien signalé. Il ne devait pas y avoir de détails sur la console, mais uniquement des jeux, que des jeux. Et là, bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais n'empêche que Jim Ryan, comme je le disais, donc, a parlé un petit peu. Et qu'est-ce qu'il a dit très important, mon cher Romain, dans ces différentes interviews qu'il a pu accorder la semaine dernière?
Juste avant ça, la conf, l'événement qui devait être diffusé, c'était plus d'une heure. Donc déjà, il y a des choses à montrer en plus d'une heure. Et ils insistaient sur le fait que c'était des jeux en train de tourner sur du vrai hardware PS5. Je pense que c'était un moyen de marquer la différence avec le dernier Inside Xbox qui soit montrait des trailers, soit des courtes séquences de gameplay sur du hardware censé représenter les capacités de la Xbox Series X. Là, ils avaient bien insisté sur le fait que ça aurait été du gameplay PS5 vraiment. Mais donc, ouais, ce bon Jim Ryan a déclaré pas mal de trucs. Déjà, il expliquait que pour la sortie de la console, ils étaient toujours, il le sentait toujours bien pour la fin de cette année. Que les jeux à court terme, ça irait aussi. Que par exemple, les jeux qui devaient être prévus pour le lancement de la PS5, ça devrait aller, pas trop de retard. En fait, là où le retard devrait se faire sentir, c'est sur les jeux qui devaient arriver après. Mais ça, c'est un peu partout pareil dans l'industrie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les développeurs, d'un côté, peuvent continuer de travailler de chez eux, etc., il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être faites à distance. Par exemple, la mocap, les enregistrements des dialogues, etc. Il y a ces choses-là qui ne peuvent pas être faites à distance, donc ça, forcément, ça prend du retard, et donc ça va décaler les jeux qui seront prêts pour plus loin. Qu'a-t-il dit d'autre? Il a parlé du prix. Alors ça, c'était, pour moi, c'était vraiment le truc le plus intéressant de son interview avec Games Industry, c'est que à la manière d'un bon communicant, il expliquait qu'il ne voulait pas parler de prix, mais qu'il préférait parler de valeur. Parce que, je ne veux pas paraphraser, mais en gros, il expliquait que la valeur pour lui, ce n'était pas juste le fait de proposer la console la moins chère. Donc, ça veut tout dire, ça. Je pense que c'est un moyen de préparer les gens à l'idée que la PS5 ne sera pas forcément la console la moins chère de la nouvelle génération et qu'elle ne sera pas forcément bon marché. De toute façon, tout ce qui se dit sur la technologie embarquée depuis des semaines, voire des mois, va dans le sens d'une console qui vaudrait quand même un certain prix. Donc, ce qu'a dit là Jim Ryan, ça semble aller dans ce sens-là aussi.
Et il a préparé aussi sur... Enfin, peut-être pas, mais peut-être un peu quand même. C'est le fameux « imagine ». Mais voilà, il a quand même parlé aussi du prix, le budget de développement, avec l'impact que ça pourrait avoir sur le prix des jeux. Chose qui était pourtant niée ces derniers mois, ces dernières années, le fait que nouvelle console, non, tout va bien, le prix des jeux, ça bougera pas, vous inquiétez pas. Et là, chez Game Industry, il a expliqué justement qu'il y avait une augmentation des budgets de développement. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit par rapport à l'Unreal Engine 5, qui est censé faire gagner du temps et donc de l'argent, et donc beaucoup de choses dans le développement qui devraient être accélérées. Comment c'est possible que quand on a des outils qui permettent de faciliter justement le développement d'un jeu, de ne pas s'attarder trop sur la partie technique, mais vraiment s'attarder sur l'artistique, de se concentrer sur l'artistique, comment est-ce qu'on peut prévoir que le budget va forcément augmenter de ce côté-là? Est-ce que c'est pas aussi une manière de nous dire que peut-être qu'on va se retrouver avec des jeux avec 5 ou 10 dollars de plus? Je parle en dollars, hein, mais...
Ouais, je veux pas faire du tout le complotiste, mais je vais le faire un peu quand même. Si j'interprète comme ça ces remarques sur d'éventuelles hausses de prix de jeux, c'est aussi un moyen d'inciter les gens à passer sur les services. Parce que si tu te dis, ah ouais, le jeu est trop cher maintenant, mais qu'à côté de ça, en payant une quinzaine de dollars par mois, bah, tu peux y jouer en illimité, le télécharger, enfin, y jouer comme tu veux, le finir et ensuite passer à un autre jeu, c'est aussi un moyen, c'est aussi un moyen de le faire. Parce que on le sait, hein, un des principaux points centraux de la prochaine génération de consoles, c'est justement l'essor de ces services. Microsoft a commencé à prendre de l'avance avec le Game Pass. On sait que PlayStation va faire le forcing un peu plus maintenant avec le PlayStation Now, maintenant qu'ils estiment que leur architecture est plus solide. C'est ouais, augmenter le prix des jeux, c'est aussi un moyen de rendre encore plus attractifs les services à côté. Mais là encore, c'est de la...
C'est de la spéculation, parce que après, ça se trouve, il a dit ça comme ça, hein, pour les budgets, ça se trouve, ils n'augmenteront pas spécialement. On n'en sait rien. Enfin, bref.
Et il y avait d'autres choses aussi qui étaient intéressantes. Il expliquait que, comme tout le monde, il avait noté une augmentation sensible du temps de jeu et du nombre d'utilisateurs, des jeux vendus, etc., pendant la crise et les différents confinements, etc., etc. Qu'ils avaient des craintes un peu au niveau de la solidité d'Internet et des services, enfin des réseaux, etc. À ce moment-là, mais que tout a tenu chez PlayStation, donc pour eux c'était une preuve que leurs services sont fiables maintenant et leurs réseaux sont solides. Qu'ils allaient aussi devoir s'occuper des joueurs PS4 pendant plus longtemps qu'ils ne l'avaient imaginé à la base. Parce que c'est vrai que ça a clairement relancé la machine et je pense qu'il y a pas mal de nouveaux utilisateurs de PS4 cette année qui ne vont pas vouloir passer forcément tout de suite à la PS5 s'ils viennent à peine d'acheter leur machine. Donc ça, ce n'est pas directement lié à la PS5, mais c'est par rapport à la stratégie d'ensemble de Sony, c'est important aussi.
On reste sur Ryan là toujours ?
Oui, toujours Ryan.
Ok, alors vas-y, je te laisse continuer parce qu'il y avait un truc qu'on a oublié de parler après.
Et il a aussi dit, et ça c'est, on va dire, ça va peut-être être un des points où il y aura confrontation plus frontale entre Microsoft et Sony sur cette génération à venir, c'est le concept de génération justement. Il a insisté sur le fait que Sony pense toujours aux générations, que c'est un concept... envers lequel ils croient toujours, et qu'ils estiment qu'il est temps pour les joueurs d'avoir le droit à des expériences nouvelles qu'ils ne peuvent avoir que sur PS5. Donc, à l'inverse d'un Microsoft qui te propose, par exemple, hein, je cite toujours parce que c'est le porte-étendard, Halo Infinite, qui sera aussi bien sur Xbox One que sur Xbox Series X, mais évidemment sur Xbox Series X avec la version techniquement plus avancée. Là, chez Sony, eux, ils disent bien qu'il y aura des jeux de chez eux, en tout cas, qui seront exclusivement disponibles sur PS5. Donc là, il y a vraiment une différence philosophique importante entre les deux.
Il y a le hardware aussi qui sera différent, comme il l'expliquait, rien que la manette par exemple, tu ne pourras pas avoir la même expérience avec une manette PS5 qu'avec une manette PS4, donc ça justifie le fait que tu ne puisses pas avoir... Voilà, que tu ne puisses pas avoir forcément les mêmes jeux. Après, on verra. On attend toujours de savoir s'ils prévoient un équivalent au Smart Delivery du côté de chez Sony. Et c'est justement là-dessus que je voulais revenir. Et en fait, je viens de me rendre compte que je l'ai mis en dernier dans ma fiche. Donc, c'est le moment. C'était le fait qu'on a spoté la demande de Sony de rendre à partir de juillet, c'est ça, à partir du 13 juillet, les jeux PS4 compatibles PS5.
Ça veut dire que tous les jeux soumis pour, par exemple, pour classification ou pour mise en vente sur le PlayStation Store ou pour tout simplement un jeu validé que Sony doit valider, à partir du 13 juillet prochain, un jeu PS4 soumis à Sony devra forcément être capable de tourner totalement et de la même manière sur PS5. Donc c'est-à-dire pas avec des modes en moins ou avec du contenu en moins. Il faudra que ça soit exactement la même chose sur PS4 et sur PS5. Et pour ce qui est ce qui veut dire aussi, c'est que les mises à jour de ces jeux-là qui viendront ensuite devront également être proposées systématiquement sur PS5. À l'inverse, les jeux qui seront soumis avant le 12 juillet, c'est-à-dire les jeux qui sont soumis actuellement ou qui le seront un peu plus tard, eux ne seront pas obligés d'être compatibles PS5, mais c'est fortement conseillé par Sony. Et ça confirme ce qui avait été dit de manière un peu floue par PlayStation et par Marc Cerny, par exemple, il y a plus tôt cette année, ça confirme le fait que la rétrocompatibilité PS4 sur PS5, elle n'est pas garantie. Ça sera vraiment au cas par cas. Ils avaient expliqué, enfin à l'époque Sony, que l'immense majorité des jeux PS4 seront jouables sur PS5. C'est comme ça qu'ils le présentaient, hein, mais que c'était pas systématique. Et ce document soumis aux développeurs, le réaffirme à son tour.
Très bien. Bon, malheureusement, on ne verra donc pas de jeu cette semaine, normalement, si on a bien compris. Alors, on va rappeler quand même que la raison pour laquelle Sony a décidé d'annuler cette conférence virtuelle qui devait se tenir donc jeudi 4 à 22h, c'est par respect, on va dire, par envie de ne pas occuper un espace médiatique à un moment où d'autres voix mériteraient peut-être d'être plus entendues. Je crois que c'est à peu près comme ça que ça a été dit.
Le sujet est assez important, en fait. C'est prendre la lumière avec des futilités, parce que c'est vrai qu'on parle de jeux vidéo, alors qu'effectivement d'autres voix ont besoin d'être entendues en ce moment. Et pour le coup, enfin, il y a même si on a tous envie de voir les jeux PS5, hein, on va pas se mentir, mais c'est clair, le moment n'est clairement pas à ça, et donc moi personnellement, j'ai vu aucun problème à ce oui. report de la conférence. D'après Jeff Grubb, qui lui sait tout depuis le départ, ça devrait pas trop tarder. Hein. Ils vont pas retarder non trop longtemps non plus. Et d'une manière à peu près liée. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos du Los Angeles Convention Center.
Avec l'armée.
Donc le 3 a été annulé parce que à cause du Covid-19 et des mesures de confinement, etc., etc. Donc de toute façon, c'était mort. Mais imaginez, il n'y a pas de Covid-19, mais la même chose se passe en même temps. Nous, on partait, on est le combien là? On est le 2, on part après-demain, enfin au moment où on enregistre ce podcast. Donc on partait jeudi. Et t'imagines, Thomas, il y a l'armée sur le parking du Convention Center. Nous, on était logés sur le trottoir d'en face en plus. Hein,
Je pense qu'on aura emmené Camille dans nos valises. Il aurait été très content.
Il aurait passé en revue tout l'équipement. Et, oh, j'adore. Il
nous aurait servi d'intermédiaire.
Mais oui, pour le coup, je me posais la question. Bon, s'il n'y a pas le Covid-19 et toute la crise sanitaire, etc., mais qu'il se passe ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va quand même? Est-ce que le 3 aurait été annulé? Enfin, je sais pas du tout comment.
Moi non plus, parce que je dois avouer que j'ai suivi les informations, mais d'assez loin ces derniers jours. Mais je sais pas dans quelle mesure la vague de protestation s'est, on va dire, éparpillée dans le reste des États-Unis. J'ai vu qu'il y avait Minneapolis, évidemment.
Il y a plusieurs dizaines de villes qui sont sous le coup d'un couvre-feu, en fait, maintenant. Donc,
d'accord.
Ça veut dire que il y a une restriction des déplacements, je crois que c'est de 23h à 5h du matin, dans des dizaines de grandes villes aux États-Unis. Donc, il y a un vrai mouvement, et pour le coup, c'est tout à l'honneur de Sony de s'éclipser, on va dire, parce que, comme tu le disais, Romain, on est sur de la plateforme de divertissement et il y a des enjeux beaucoup plus importants que l'humanité doit affronter là, à l'heure actuelle pour se focaliser là-dessus.
Ouais, il serait temps que l'humanité essaye d'éponger un peu cette dette-là, de tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis depuis un peu trop longtemps, malheureusement. Et il va falloir évidemment que ça soit réglé, et c'est pas en allant jouer au golf ou en s'enfermant dans son bunker, évidemment, que ce genre de choses peut se régler. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à quelque chose de bien plus joyeux maintenant. Oh là oui, on va passer à un monde dans lequel tout va bien. The Last of Us 2. Allez, parfait. The Last of Us Part 2, Thomas, tu as eu l'occasion d'y jouer pendant 2 heures, c'est ça?
2 bonnes heures, ouais.
Ah, quand même. Quand même, quelle chance.
Ça va dépendre une fois de plus, évidemment, de votre rythme de jeu, forcément. Mais c'était effectivement une toute nouvelle séquence qui nous a été proposée donc juste avant le test, qui nous replace un petit peu dans la peau d'Ellie, qui, une fois de plus, se retrouve seule en scène dans les rues de Seattle, à la recherche d'une certaine Nora, dont elle va vouloir extirper quelques informations.
Et, c'était la séquence qu'on a vue dans le...
Vous avez vu des extraits, effectivement, dans le State of Play.
Dans le State of Play, absolument, avec cette pauvre joueuse de PlayStation Vita, la pauvre, paix à son âme.
La pauvre, non seulement elle a du goût, et en plus elle meurt à cause de ça.
Elle joue à Hotline Miami, et voilà, c'est tout ce qu'on lui propose, vraiment.
Et ça prouve une fois de plus que les équipes de Naughty Dog ont beaucoup de goût, évidemment, puisque Bah, vous avez, comme dans le premier de Last of Us, des PS3 hein, qui traînent dans les habitations, puisque le temps s'est un petit peu arrêté à cette époque-là. Mais la première chose qu'on a pu constater dans cette nouvelle démo, c'est l'ouverture qui était, qu'on avait déjà pu sentir dans la première preview de... Merci. Oui, et même dans la preview de l'automne dernier, où en fait les environnements gagnent un petit peu en taille et en ouverture, ce qui fait que en fonction de votre style de jeu, vous allez avoir encore plus d'approches possibles en fait, quelle que soit la manière dont vous allez jouer, c'est-à-dire plutôt infiltration, plutôt carrément bourrin. On a pu voir un petit peu des deux pendant le State of Play. Vous n'allez pas forcément prendre les mêmes chemins. Les adversaires vont évidemment avoir des réactions très différentes. Et c'est hyper jouissif de même tenter de recharger en fait une séquence et de faire un what if en se disant mais si j'étais pas passé par là, si j'étais plutôt allé m'occuper de tel adversaire, qu'est-ce que ça aurait donné ? Et on voit qu'il y a eu un énorme travail de cohérence et de réflexion autour de la gestion des adversaires, de leur manière aussi de vous chercher. Puisque là, on a pu rencontrer... Alors, on a revu dans cette séquence des ennemis qu'on connaissait, des clickers qui eux, se démarquent par leur relative silence. Ils s'appellent stalkers en anglais, je ne me souviens plus du tout de la version française. Mmh. Je suis navré. Mais ces ennemis, en tout cas, qui échappent à votre perception, au mode écoute, et qui vont du coup surgir, donc il va falloir réagir assez rapidement. Là, du coup, les nouveaux items que vous avez découverts pendant le State of Play n'étaient pas forcément très utiles sur cette séquence-là. Ils sont plus utiles dans les environnements ouverts qu'on a pu parcourir après. Vous avez notamment l'apparition d'un silencieux qu'Ellie peut crafter pour son pistolet automatique, qui est quand même bien pratique, parce que même si ça vous coûte des ressources, ça va vous permettre d'utiliser une arme à feu alors que des humains sont aux alentours. C'est quand même plutôt pratique si vous arrivez à viser, à coller une balle en pleine tête. Généralement, ça fait quand même le taf et ça vous permet d'avancer assez tranquillement sans que vous soyez repéré. Et à l'extrême inverse, on a les flèches explosives qui sont également apparues, qui elles vont vous permettre d'occasionner beaucoup plus de dégâts ou éventuellement de détourner l'attention de vos adversaires avec cette explosion qui va pulvériser les adversaires qui vont se trouver autour du type que vous avez visé et qui vous permettent de faire des dégâts et en plus de prendre la poudre d'escampette avec un peu de chance puisque vous n'êtes pas localisé à ce moment-là. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a un tout nouveau type d'ennemi qui est apparu pendant cette séquence, les Scars, pour le coup, qui n'utilisent pas d'armes à feu. Eux, ils chassent à l'arc, ils sont très silencieux, très rapides, et ils ont une particularité, c'est qu'ils communiquent entre eux en sifflant. Donc c'est quelque chose qu'on découvre la première fois qu'on y fait face. On se rend compte en plus que lorsqu'on combat des ennemis qui maîtrisent l'arc, les flèches restent plantées dans le corps de la pauvre Ellie qui va du coup devoir prendre le temps de les enlever si elle ne veut pas voir sa vie décroître au fur et à mesure, puisque tant que vous avez une flèche plantée par exemple dans l'épaule, déjà vous avancez un petit peu moins vite, mais en plus votre énergie va diminuer progressivement. Et ces ennemis sont sacrément perfides, puisqu'en fait ils vont très rapidement vous encercler en laissant vraiment aguerri au combat silencieux et à l'attaque de groupe. Et la première fois qu'on tombe dessus, ça oblige à déployer une toute nouvelle stratégie finalement pour les affronter, puisque c'est pas un type de combat qu'on connaît dans The Last of Us. Et c'est très plaisant, parce que ça amène à revoir un petit peu sa manière de fonctionner et à une fois de plus tester les différentes approches que le jeu nous offre. Et ce serait dommage de s'en passer en plus, parce que l'ouverture de ces zones profite également de ces décors, de ces intérieurs, de ces immeubles dévastés pour vous raconter des choses. On a toujours une narration environnementale qui est extrêmement bien pensée, qui va toujours vous donner quelques petits éléments de compréhension sur cet univers pour peu que vous preniez le temps de vous arrêter et d'observer un petit peu les décors. Vous allez évidemment y trouver des notes qui vont des fois vous expliquer ce qui est arrivé au groupe que vous avez terrassé juste avant ou qui vont vous prévenir de ce qui va potentiellement se passer ou de qui vous allez éventuellement rencontrer et de qui sont ces gens aussi, puisque je crois que c'est la co-scénariste Ellie Gross qui l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas vraiment de vision manichéenne en fait dans The Last of Us Part 2. Les gens qu'on affronte sont des ennemis, mais parce qu'ils sont simplement dans le camp d'en face a priori, et Ellie elle a sa mission à mener à bien. Et malheureusement, elle va elle aussi faire des choix pour sa propre survie et pour l'avancée de sa quête, qui sont vraiment très intéressants. Et on avait déjà pu, une fois de plus, observer ça pendant la première session de preview, mais les groupes que vous affrontez se connaissent et ce ne sont pas des PNJ complètement aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ont tous un nom et quelques lignes de background. et ils vont s'interpeller entre eux. Alors, quand c'est les groupes qui sifflent, vous allez devoir comprendre le fonctionnement de cette espèce de langage particulier, et assez rapidement, finalement, on comprend les nuances, et on sait quand ils commencent à se regrouper pour fouiller une zone en question, et donc il faut s'adapter à cette espèce de chasse. Et pour les humains qui communiquent de manière plus traditionnelle, on sent qu'il y a une petite relation en fait entre ces groupes qui vont s'interpeller par leur nom. Et si tu en faisais partie, par exemple, mon cher Romain, et que tu venais à te faire buter, à un moment donné, quand ils vont tomber sur le cadavre, c'est pas ah putain, il y a un mort, c'est non, Romain s'est fait descendre. Et celui ou celle qui avait plus d'affinité va pas réagir de la même manière qu'un autre PNJ. Donc, il y a quelque chose de très cohérent, en fait. Moi, ce qui m'a bluffé dans cette seconde partie, cette nouvelle preview, au-delà de la mise en scène, de la plastique fabuleuse, il y a une gestion de la lumière qui est absolument fantastique dans The Last of Us Part II, mais le plus impressionnant, c'est presque ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui tourne derrière, tout ce qui a été pensé pour rendre le jeu profond, cohérent, organique. Et dans la grande tradition qu'on a maintenant des jeux first party de chez Sony, on a une interface qui est presque inexistante, finalement, qui va disparaître au profit de l'action, des décors, de la narration environnementale et à travers les dialogues. Et on gagne tellement en immersion, je veux dire, on est vraiment happé par tout ce qui se passe. Et en plus, le jeu s'adapte véritablement à tous les styles de joueurs dans cette multiplicité d'approches qu'on peut avoir. Et ça rend le tout extrêmement intéressant, évidemment.
Et toi, tu joues sur une PS4 normale, en plus?
Non, là, c'est la PS4 Pro, pour le coup.
C'était la PS4 Pro, d'accord.
Je me suis permis d'emprunter celle de la rédac, mais on en profite d'autant plus que le jeu a vraiment été optimisé, surtout dans sa gestion de la lumière, qui est vraiment prodigieuse. On en profite d'autant plus qu'on peut y jouer sur PS4 Pro.
Concernant l'ouverture des zones, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses que la zone que tu as parcourue jusque-là est à une taille adaptée pour tous les joueurs, et qu'il n'y aura pas de possibilité de se perdre, de trouver que c'est un peu vide? Est-ce qu'il y a un rapport d'échelle, on va dire, qui lui aussi est cohérent pour quelqu'un qui veut peut-être pas forcément tourner autour du pot et aller directement à l'essentiel?
Alors, complètement, pour plusieurs raisons. Déjà, tu n'as pas de carte avec toi, mais en fait, tu n'en as pas besoin, puisque Ellie est à la recherche donc de Nora qui elle pense qu'elle se trouve dans un hôpital que tu aperçois au loin à travers les rues de Seattle. Donc, tu as toujours un point de repère assez visible qui te permet de t'orienter et d'au moins trouver la bonne direction dans laquelle avancer. En plus de ça, les bâtiments dans lesquels tu vas devoir rentrer ou qui restent optionnels ont une architecture qui est véritablement cohérente. C'est-à-dire que si tu rentres, admettons, dans un bar, il va avoir une structure très logique avec une salle de service, avec les cuisines en fond, avec un étage qui va plutôt être les appartements des gens qui vont y travailler. Quand tu arrives dans un hôtel, c'est pareil. D'un coup, évidemment, toutes les chambres vont se ressembler, mais on retrouve des petites différences qui dépendent des gens qui les ont habitées. Et en plus de tout ça, tu as de toute façon un travail de mise en scène et je ne sais pas si on peut parler de direction de la photo quand on est aussi libre dans ses déplacements et dans la gestion de la caméra, mais il y a toujours des éléments assez subtils qui vont attirer ton regard et qui vont du coup t'aiguiller sur la direction à prendre, le bâtiment dans lequel rentrer, ou si la solution n'est pas devant tes yeux, en tout cas, la trajectoire que tu vas devoir trouver pour avancer. Il y a toujours quelque chose pour les joueurs qui prennent leur temps simplement en observant, en regardant un petit peu ce que le décor propose. La solution est généralement assez évidente. Après, des fois, il faut ruser un petit peu pour parvenir des fois à s'échapper de telle ou telle zone. Mais il y a quelque chose de très logique, une fois de plus, et on n'est pas sur des indices visuels, j'ai envie de dire, de l'ancienne génération.
La peinture blanche ou
un aplat de couleurs, voilà, quelque chose qui détonne et qui n'a rien à faire là, mais qui est là pour attirer ton regard. Non, là, on a des éléments qui attirent le regard, mais qui restent logiques, cohérents, qui devraient véritablement se trouver là, mais qui t'aident du coup dans ta progression. Donc, tout est logique, tout est bien foutu.
Ok. Donc, tu me confirmes, on peut, les ennemis peuvent détecter Ellie. Elle n'est pas invisible.
Oui, évidemment, puisque là, on incarne Ellie.
Non, mais parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait continuer sur la lancée du premier et dire « Ah bah non, mais finalement, en fait, Ellie, elle est vraiment invisible. »
Non, pas du tout.
quand tu incarnais Ellie dans le premier, elle n'était pas invisible de toute façon.
Non, mais quand elle accompagnait Joël, par contre,
ah oui, c'est bah une histoire. Ou même dans Left Behind, elle était visible.
Oui, aussi. Non, mais bien sûr, mais c'était juste pour être sûr, parce que...
C'était la petite pique nécessaire
absolument.
De ce cher plumeau. Non, je te rassure, puisque Ellie est devenue le personnage principal, et que dans la séquence qu'on a pu jouer, en tout cas, elle était seule en scène, elle n'était pas accompagnée d'un éventuel acolyte. Évidemment qu'elle se fait repérer, et assez rapidement d'ailleurs... Les ennemis humains, en tout cas, ont une capacité de détection assez fine, et il va falloir la jouer plutôt discrète, parce que les Scars qu'on a pu affronter, c'est très rapidement compliqué d'affronter 4-5 humains qui ont travaillé l'attaque en groupe. Donc, après, ça dépend de votre style de jeu, mais on va parfois recommencer quand même pas mal de fois une même séquence avant de pouvoir la passer proprement, puisque le jeu. En tout cas, sur les deux heures de cette séquence, on sent que le rythme, progressivement, monte petit à petit à chaque affrontement. Il y a de nouvelles choses à prendre en compte, et bah, ça n'annonce a priori que du bon pour la suite, puisque on était dans une vraie marge de progression par rapport à la prévue de l'automne dernier. Donc on attend évidemment la version définitive du jeu avec beaucoup, beaucoup d'impatience.
J'ai deux questions, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations où tu avais des ennemis humains et des monstres en même temps, pour savoir s'il peut y avoir une sorte de triangle d'affrontement où les monstres attaquent les autres humains ou inversement?
Oui, alors on a pu l'apercevoir un tout petit peu dans le gameplay qui a été dévoilé. En tout cas, vous l'avez dans les impressions que Poufy a montées. Il y a une petite séquence souterraine où effectivement tu te retrouves avec des ennemis humains et des clickers. Et comme toi, tu es dissimulé, tu peux jouer la carte de faire s'affronter. Les factions entre elles, et puis Ellie dispose de nouveaux gadgets, mais tu récupères aussi tout un tas de fonctionnalités du premier épisode, donc des bombes artisanales à clous, ou ne serait-ce qu'une bonne vieille brique qui va attirer l'attention de tes ennemis d'un côté ou de l'autre, et des humains face à des clickers, forcément ça dégénère assez rapidement, et du coup tu restes dans ton coin, tu comptes les points, t'attends que la situation se calme, et donc oui, tu peux très rapidement économiser beaucoup de munitions. Oui, exactement. Ça permet d'être très 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 économe en balles, et on sait évidemment à quel point c'est important dans Last of Us.
Et ma deuxième question, c'est concernant le doublage, tu as joué en anglais ou en français ?
Oui, alors c'est mon premier run, donc je suis obligé d'avouer que pour l'instant, la VF, je m'en tamponne cordialement, donc je suis resté pour l'instant en full VO. C'était pas une séquence forcément très bavarde, hein, celle à laquelle on a pu jouer. Ellie est toute seule, donc des fois elle va se mettre à parler à voix haute pour expliciter certains éléments ou justifier certains trucs. C'est une fois de plus subtil et bien fichu. On a plus entendu les ennemis communiquer entre eux en fait dans cette séquence-là que des véritables phases de dialogue avec les protagonistes principaux de l'intrigue. Mais je trouve pour l'instant que le jeu d'acteur, que ce soit de la part d'Ellie ou de tous les PNJ qu'on a pu croiser, est vraiment très convaincant. On parlera évidemment de la VF au moment du test, parce que j'aurais pris d'ici là le temps d'y jouer en VF une fois que je l'aurais terminé. En tout cas, en VO, c'est pour l'instant de très très bonne facture. Mais voilà, c'était sur une séquence où il n'y avait pas tant de dialogue que ça finalement.
Très bien. Donc, sur la VO, c'était plutôt garanti, vu les personnes impliquées, que ça allait être de la qualité. C'est pour ça que je voulais savoir si au cas où tu avais joué en français, pour voir, parce que les doublages français, c'est pas toujours...
C'est vrai qu'après... C'est vrai qu'après, on n'avait pas trop compris pourquoi Malik Bentala reprenait le rôle d'Eli, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'était... Attends, c'est... si je dis pas de bêtises, c'est Adeline Chetaille qui fait Eli, il me semble. Hein. Donc, c'est sûrement elle qui va...
Qui jouait la VF de Zelda dans Breath of the Wild, et c'est toujours elle qui incarne Ellie dans cette deuxième partie.
Eh ben parfait, ça va être du bon boulot, j'en suis certain. Sorti le 19 juin, c'est ça ?
Tout à fait.
Et le test, il paraît qu'on
a le
droit...
Ce sera le 12.
Le 12 à quelle heure ?
Le 12 à 9h01 pétante.
Très bien, bon on prend rendez-vous pour ce moment-là, et de toute façon je pense que tu auras l'occasion de nous en reparler dans les grandes largeurs la semaine prochaine, dans le... prochain podcast de la rédaction, évidemment. Merci Thomas, on va passer eh bien, au troisième thème de la semaine, le thème surprise, le thème qu'on n'attendait pas, le thème du jeu Konami qui sort là. Bah, il est sorti hier, hein, au moment où le podcast est diffusé, il est arrivé ce mardi 2 juin, vraiment venu de nulle part. Alors pour la petite histoire, nous on est au courant depuis un peu plus de 15 jours que Konami édite un jeu indépendant, donc d'un petit studio américain qui s'appelle Ukuza. Pardon, j'allais dire Uzuka, non, c'est Ukuza. C'est un projet qui a été développé d'abord par un seul homme qui s'appelle David Stanley sur RPG Maker, un jeu qui était toujours en wishlist sur Steam, mais rien n'avait été dévoilé sur le partenariat avec Konami ou autre. Et qui est sorti là comme ça, bah, édité par les Japonais, donc qui s'appelle Skull Attack. Alors c'est un nom un peu pourri, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est le genre de truc que j'ai un peu du mal à accepter, qui fait un peu trop mettre de l'univers. Ah non, il va affronter Skull Attack, oui, bien sûr. Non. Bon alors derrière le nom, il y a un truc qui est vraiment très mignon. Même si ça parle d'un personnage squelettique qui doit défendre son univers de mort-vivant face aux humains. C'est un jeu qui a tout de suite, quand on le regarde, qui fait penser un peu à un mix entre Hollow Knight, je vais pas dire Cuphead, parce que Cuphead a mis la barre peut-être un petit peu trop haut, et que là, les traits sont souvent un petit peu, on va dire, maladroits, pas toujours bien ordonnés pour la plupart des personnages. Mais il y a un petit cachet, BD, dessin animé qui est assez plaisant, une petite ambiance musicale à la Tim Burton un petit peu, et même visuelle d'ailleurs, hein, puisque ça fait évidemment penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack, quand on a des morts-vivants partout qui s'amusent. Et je dois avouer que la première fois que je l'ai pris en main, je me suis dit « Ah, ça va se présente vraiment ça va être un bon Metroidvania. » Alors, après l'avoir terminé, le résultat, c'est pas exactement ce que j'attendais. En fait, c'est pas vraiment un Metroidvania, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les différents trailers. Là, on se rapprocherait plus d'un jeu qui tape du côté de chez Super Meat Boy, avec évidemment une map à explorer, mais de manière très très légère. Pour ce qui est de la partie Metroidvania, oui, vous avez des compétences aussi à récupérer. En plus de donner vos coups d'épée, vous pouvez faire des doubles sauts et par la suite avoir un triple saut, lancer votre côte pour en faire un boomerang, ce genre de bêtises, sans compter des pouvoirs magiques comme récupérer de l'énergie. Donc il y a des petites composantes comme ça, mais c'est vrai que la principale attraction du jeu, c'est le côté plateforme. C'est vraiment de ce côté-là que ça marche, parce que le combat, malheureusement, c'est un peu tout mou. Les boss sont, je m'en souviens d'aucun. Voilà. ils servent strictement à rien. C'est quelques coups et on n'en parle plus. Ils n'ont même pas un pattern intéressant, même pas une idée derrière chaque boss. Non, vous les martelez comme ça et puis c'est fini. Et on n'en parle plus. À la limite, vous faites peut-être deux sauts au passage et c'est tout. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est en général la marque des très bons jeux. Ça passe par les boss et là, ils les ont un peu foirés. Donc, il faut se concentrer sur la partie purement plateforme. De ce côté-là, comme je le dis, ça fait penser beaucoup à Super Meat Boy parce que vous allez énormément faire de wall jump, de glissade, de saut par-dessus des obstacles qui peuvent soit pomper votre barre d'énergie qui est vraiment très courte quand vous commencez, soit vous tuer d'un seul coup. Il y a beaucoup de surfaces qui vous one-shot et que ça peut être, on va dire, délicat et le jeu commence assez méchamment d'ailleurs de ce côté-là, hein. Il n'y a vraiment pas de moment pour essayer de s'habituer ou essayer de parfaire son doigté par rapport aux différents sauts. Donc, il faut être dès le départ très, très efficace. Et c'est de ce côté-là, ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas de grandes idées non plus, à part peut-être que chaque zone dans laquelle vous rentrez, en fait, chaque pièce est une zone de plusieurs écrans ou même d'un seul, en général, qui dispose de lanternes pour signifier des checkpoints, ce qui fait que vous n'aurez pas à vous retaper toute une séquence à chaque fois depuis le début, et qu'il faudra, si possible, essayer d'atteindre ces lanternes pour avoir son petit checkpoint. Ce que vous perdez, en fait, quand quand vous mourrez, eh bien, ce sont des petits cristaux qui vont être votre monnaie d'échange pour allonger votre barre de vie, pour récupérer justement des pouvoirs magiques ou les améliorer. Et ces trucs-là, je sais que par exemple au début, quand j'étais pas encore très au fait de la maniabilité, notamment sur les wall jump, qui ne nécessitent pas que vous appuyez sur le bouton saut vers l'autre côté, mais il faut juste en fait faire droite et gauche pour passer d'un bout de mur à l'autre.
Quoi ?
C'est un truc qui est très difficile à comprendre au départ, et quand on a les réflexes d'autres jeux, évidemment.
De tous les autres platformers sortis ces 20 dernières années.
Voilà, et ben, c'est un truc sur lequel il faut prendre la main. Au début, je ne l'avais pas, donc j'ai perdu énormément de ces joyaux, et que ben, ça m'a un petit peu handicapé pour la suite de l'aventure, en tout cas dans l'évolution de mon perso. Après, je me suis rattrapé, évidemment. Et donc, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Côté plateforme, ça marche plutôt pas mal, vraiment. Mais, encore une fois, on n'a pas de vraies surprises, et c'est vraiment ça qui est dommage. Il y a même des trucs qui sont... Enfin, moi, qui me plaisent pas forcément. Après, ça marche, mais ça me plaît pas forcément. C'est les séquences Flappy Bird, où on va se retrouver à devoir marteler le bouton pour avoir le bon dosage, pour pouvoir voler entre les éléments. Il y a plein de trucs comme ça qui viennent s'imbriquer et qui marchent pas forcément toujours bien, malheureusement, alors qu'on a une belle petite ambiance, qu'on a un petit scénar rigolo avec ces petits twists sympathiques, qu'on a aussi un petit peu de variété, comme je le disais, avec ces séquences Flappy Bird, mais aussi des moments un peu plus furtifs. Bref, c'est un petit jeu, quoi. Voilà, tu sens que c'est un petit jeu qui passe 5-6 heures maximum. Quand c'est ta première fois et que t'es un peu maladroit avec justement cette histoire de wall jump qui nécessite de t'orienter, mais à laquelle tu te fais quand même pas mal, parce que le jeu reste mine de rien assez précis dans sa maniabilité. Donc voilà, c'est juste dommage que ce soit pas un peu plus étoffé pour un jeu comme ça, qu'on aurait pu attendre justement du côté d'un Hollow Knight ou autre, des Metroidvania qui ont un petit peu changé la donne et qui ont apporté des choses en plus. Mais c'est pas le cas, voilà. Scale Attack, c'est juste un bon petit jeu, un bon petit jeu indé, pas cher, que Konami peut largement mettre en avant, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Je pense que les speedrunners vont s'éclater dessus aussi. Il y aura moyen de faire quelque chose pour essayer de battre les records absolument. Après, de là à chanter ses louanges, c'est une chose que je ne pourrais malheureusement pas faire. Mais on sent l'intention et je me dis, ah, eux, ils peuvent peut-être faire quelque chose s'ils ont un peu plus encore de moyens, peut-être, et d'ambition aussi, hein, et puis d'idées. Peut-être qu'ils peuvent réussir à faire quelque chose par la suite, en tout cas. Parce que l'attaque, bon, en même temps, c'est mieux que de plus avoir du tout de jeu de la part de Konami. Donc, on s'en contentera.
Et tu penses que c'est une direction qu'ils veulent prendre et qu'ils vont peut-être continuer à éditer des petits projets comme ça à l'avenir ?
Ah, écoute, ils ont l'air un petit peu partis pour. La façon dont ils ont communiqué en secret jusqu'ici sur ce qu'est l'attaque, c'est que ils sont très contents de pouvoir eux éditer un petit projet indépendant comme ça, et de ce qu'on peut comprendre des mots des responsables des branches européennes et japonaises, c'est quelque chose qui pourrait peut-être continuer par la suite, ouais.
Et... ce qu'ils peuvent apprendre aussi, c'est peut-être une des premières fois qu'ils éditent un tout petit studio comme ça, et que ils vont prendre au fur et à mesure leur rôle d'éditeur peut-être plus à cœur et améliorer les projets qu'ils vont pouvoir éditer. En tout cas, enfin, c'est ce que je leur souhaite, et ce serait super chouette de voir Konami revenir avec des bons jeux sur le devant de la scène, parce que ça nous manque un peu, quoi.
De ce que je sais, c'est qu'évidemment la situation qui a découlé du renvoi de Kojima, la situation dans laquelle ils sont toujours, en termes de perception, dans laquelle ils sont toujours un peu aujourd'hui, c'est pas une situation dans laquelle ils ont envie de rester, et ils ont envie de redorer leur blason, mais que c'était super délicat, parce que tout ce qu'ils auraient pu faire ou voulaient faire après, ça pouvait être perçu de deux manières, tu vois. Ça pouvait aussi bien les remettre dans les bonnes grâces des joueurs, tout comme ça pouvait être mal perçu. Ah, ils ont fait des tentatives plutôt maladroites. Hein. Metal Gear Survive, c'est super maladroit. Même si là encore, on sait pas tout au sujet de ce jeu-là. Ou le dernier contrat, là c'est pareil, c'est très maladroit. Par contre, à côté de ça, vous avez la PC Engine Mini qui est un beau produit. Y a d'autres choses qui sur lesquelles ils essayent de travailler qui font que ça pourrait aller dans le bon sens. Mais là encore, ça demande du temps parce que faire un gros jeu avec les licences bien connues et bien aimées, ça demande du temps. Mais c'est vrai que les voir faire ça, un accord d'édition de ce type avec un petit jeu, on les attendait pas forcément à cet endroit-là.
Ah non, même pas du tout. Et c'est une bonne chose. Hein. Peut-être qu'un jour, on parlera de Konami comme on parle de Sega aujourd'hui. Qui sait ? Comme Sega avait largement su, on va dire, adopter de nombreuses licences, de nombreux studios occidentaux. Je pense évidemment à Amplitude, à Sports & Interactive et à d'autres. Et que ça a fait qu'aujourd'hui, Sega est un des meilleurs éditeurs, non seulement sur son créneau habituel, mais en plus chez les joueurs PC et les joueurs occidentaux. C'est le minimum qu'on pourrait souhaiter à Konami après avoir connu une sacrée traversée du désert, ne serait-ce que, pas que vidéoludique, hein, mais aussi en termes d'image. Il serait peut-être temps qu'à un moment, le fuck Konami de Guillermo del Toro s'envole un petit peu et qu'on passe à autre chose. Ça, c'était le troisième thème. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'anniversaire de la semaine. Messieurs, dames, l'anniversaire de la semaine, c'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat qui est sorti en arcade et c'est un jeu de combat qui fête, eh bien, tout simplement, ses 25 ans. Déjà, oh, 25 ans. Ah, ça tape, hein, là, en ce moment.
Ah, ça fait mal. Tu prends un coup de vieux. Le voilà, regardez. Il est beau, il est jeune, il est encore fringant. C'est Street Fighter Zero ou Street Fighter Alpha dans sa version occidentale. En tout cas, c'est sous le nom de Street Fighter Zero qu'il est sorti au Japon il y a donc 25 ans sur borne d'arcade. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'était le premier vrai nouveau Street après moult itérations de Street Fighter 2. Qui est ressorti sur, via pas mal de mises à jour. Là, c'était la première tentative de faire autre chose. Alors, on reste sur CPS2, évidemment, puisque Capcom profite de sa nouvelle carte et de son système arcade qui quand même envoyait du pâté pour un jeu dont la première différence saute aux yeux, puisque l'habillage graphique est quand même assez différent de Street 2. Et Capcom a confessé avoir été influencé par ce film d'animation qu'on a, je crois, tous vu, qui était sorti en 1994, Street Fighter The Animation. Ça les avait un peu marqués et ils avaient voulu se rapprocher d'un style dessin animé. Et du coup, on retrouve les héros qu'on connaît, mais dans le
pas
nom...
Pas tous.
Pas tous, évidemment, mais Ryu et Ken sont là, donc Ryu, Ken et Chun-Li, j'ai envie de dire. Absolument. Donc l'honneur est sauf. Sauf que là, Zero oblige, on se retrouve en fait un peu dans le passé, puisque Street Fighter Zero se trouve quelque part entre Street Fighter premier du nom et Street Fighter 2. Du coup, on a des héros rajeunis, avec tout un tas de détails. Ken qui a notamment les cheveux longs, Ryu qui a encore un bandeau blanc, Sagat qui vient de se faire pulvériser, qui donc aborde une cicatrice sur le torse, et des revenants du premier Street, justement, notamment Birdie et Adon, qui étaient des combattants donc, britanniques et thaïlandais qu'on avait pu affronter dans le premier Street Fighter, qui reviennent avec évidemment une palette de coups largement élargie, des invités de la série Final Fight qui arrivent sur le premier Zero et qui vont continuer à venir intégrer le roster au fur et à mesure des suites, et puis des petits nouveaux, comme Rose notamment, qui est un perso que j'aime beaucoup, que j'ai énormément joué sur la série des Zero, et un personnage qu'on connaissait de nom, mais dont on ne connaissait pas véritablement les traits, c'est Charlie, l'ami défunt de Guile. Slash Nash dans sa version originale, effectivement, qui reprend la palette de coups de Guile, mais qui permettait justement de densifier un petit peu l'histoire. Et c'était l'un des nombreux apports de Street Fighter Zero, c'est qu'on avait une scénarisation qui allait quand même bien plus loin pour un jeu de baston, qui en tout cas allait beaucoup plus loin que la série des Street Fighter 2, puisque les boss de fin étaient différents en fonction des personnages qu'on choisissait au départ, et on avait toujours quelques scènes avec des dialogues avant le combat dans le mode histoire, ce qui permettait quand même d'expliciter un petit peu les relations entre les différents personnages. Ça permettait d'avoir un petit peu plus de contexte et de background. Et puis évidemment, au niveau des mécaniques de gameplay, on a quand même beaucoup d'ajouts. évidemment la palette de coups des personnages qu'on connaît qui a été retravaillée, mais surtout une utilisation de la jauge de Super qui a été bien plus poussée, puisque c'est l'héritage direct de Super Street Fighter 2 Turbo qui permettait de déclencher une furie une fois qu'on avait rempli une jauge à fond. Là, en l'occurrence, on avait une jauge à 3 niveaux qu'on pouvait claquer aléatoirement, donc en intégralité pour un super coup, ou alors on pouvait choisir de lancer des petites super attaques qui allaient donc consommer un tiers à chaque fois de la barre pour renverser quand même la donne. Et c'était visuellement quand même très très impressionnant. De par ces super combos, on avait évidemment l'écran de finish qui pétait les yeux quand on arrivait à placer sa super au dernier moment, mais ça apportait beaucoup plus de solutions stratégiques, on va dire, puisque on n'avait pas seulement un type d'attaque possible, on pouvait l'utiliser pour gérer justement ces super attaques, et aussi l'alpha counter qui est emprunté, enfin prémisse de ce que va être Street Fighter 3, puisque là on veut faire un petit quart de cercle avec un coup pour claquer justement un tiers de cette barre, annuler le coup adverse et contrer, et donc reprendre la main. Donc, tout ça mélangé avec la vitesse d'exécution dans Street Fighter, ça donnait des matchs évidemment endiablés et surtout super jolis, puisque on profitait de personnages notamment assez détaillés, mais surtout de très jolis décors, presque à la sauce SNK, vraiment, vraiment travaillés dans leurs détails, avec plein de petites animations qui nous faisaient évidemment une fois de plus voyager, puisqu'on parcourait le globe pour affronter plein d'adversaires. Et c'est le premier opus d'une trilogie culte, je pense, j'ai envie de dire, hein, parce que 02 et 03, ce sont deux chefs-d'œuvre encore extrêmement joués aujourd'hui. Et tout ça part de Street Fighter Zero, justement, qui est sorti en arcade et qui a ensuite été porté évidemment sur PlayStation et sur Saturn, même si au tout début, l'idée de Capcom, c'était quand même de le développer sur CPS tout court pour pouvoir le porter sur Super Famicom. Sauf que finalement, c'est jamais arrivé, même si 02 a, lui, été porté sur Super Famicom très tardivement en 96.
Qui était une belle réussite aussi, mine de rien. Ils avaient réussi à porter 02 sur Super NES, ils avaient fait un sacré boulot.
Un joli travail de compression, même si on avait un temps de chargement assez bizarre au tout début des combats qui cassait parfois un peu le rythme. Et d'ailleurs, l'une des nouveautés qui avait été apportée par les portages PlayStation et Saturn, c'était le mode training qui n'existait pas avant et qui permettait, là, pour la première fois, de tester véritablement ses coups face à un adversaire inerte. J'y jouais à l'époque, et il y a une version Game Boy Color qui est sortie aussi, que j'avais. C'est avec deux boutons, donc je vous laisse imaginer le côté un peu archaïque. Du gameplay, voilà, forcément, mais c'est un jeu qui a forcément marqué son époque et qui apportait une vraie nouveauté sur une série qui commençait à tourner en rond avec 4 épisodes, sinon plus, de Street Fighter 2, et à laquelle vous pouvez quand même assez facilement rejouer aujourd'hui, puisqu'il y a une compilation qui est sortie pour les 30 ans de la série Street Fighter, je ne vais pas mettre dans la lumière, qui inclut évidemment Alpha, 0, le 2 et le 3, ce qui permet de se rendre compte que c'est toujours aussi sympa d'y jouer 25 ans après.
Je voudrais juste demander la justice pour Dan, que tu n'as pas cité.
C'est vrai. Parler de Dan, justement.
Ouais. C'est vrai.
Parce que Dan est né dans cet épisode.
Tu parlais des décors à la SNK, justement, et moi, je me souviens bien que la presse magazine française présentait Dan comme étant un tacle à peine dissimulé à SNK et au personnage des King of Fighters.
C'était le mix entre Robert Garcia et Ryo Sakazaki, c'est ça?
Kusanagi.
Kusanagi, je me rappelle plus.
C'est Kyo Kusanagi, pardon.
Kyo Kusanagi.
Je mélange avec un autre personnage. Ouais.
Ryo. C'est Ryo, c'est pas Kyo, c'est le petit gamin de King of Fighters.
Oui.
D'accord.
Kyo, c'est Art of Fighting avec son kimono orange.
Ah, je confonds tout le monde.
Mais voilà. Dan, qui était un personnage assez faible, globalement, qui était le personnage comique du jeu. Mais moi, je me souviens très bien, parce que je crois qu'il sort à l'été 96 sur PlayStation et sur Saturn, à peu près, d'après mes souvenirs. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai 11 ans. Et je me rappelle que c'est là ça prouve l'impact qu'avait la presse magazine sur certains joueurs dont je faisais partie à l'époque. C'est qu'à force de voir les previews et les tests imports de ce Street Fighter Zero, parce qu'il s'appelait Zero au Japon, je me le suis acheté en import à 11 ans et j'y ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué aussi à Street Fighter 02 ensuite, toujours en import. Mais en fin de compte, j'y jouais beaucoup en étant nul, en étant absolument nul et sans saisir les subtilités du gameplay. Mais je le trouvais tellement beau et j'aimais bien le fait qu'ils aient appuyer un peu le background des personnages et un peu plus insister sur l'histoire. Et d'ailleurs, après, dans le 02, il y avait le mode dramatic battle, où tu pouvais jouer Ryu et Ken en équipe contre Bison, Bison slash Vega. Et ouais, donc, c'est la série des 0 Alpha, c'est vraiment un point marquant, je trouve, de Street Fighter. Et qui est, à part dans le monde du jeu de baston, des spécialistes du jeu de baston, je me demande si c'est un jeu qui est reconnu à sa, enfin une série qui est reconnue à sa juste valeur.
Bah, je crois qu'il y en a aucun des épisodes qui est dans les Platinum Titles de Capcom. Ah, donc du coup, ça en dit un petit peu sur le succès qu'il a pu rencontrer malheureusement dans le monde. Mais j'ai jeté un œil rapidement. Ça se trouve,
Après, il y en a au moins. Je me souviens aussi, Thomas, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que les changements de design des personnages, ça avait un peu fait parler à l'époque, et pas toujours de manière positive. Certains n'avaient pas forcément accroché au côté rajeunissement des héros.
Des personnages qu'on connaît et qu'on apprécie. Ouais.
Et après, il y a beaucoup de gens aussi qui étaient un peu dégoûtés que Capcom ne passe pas sur le 3, en fait. Qu'il fasse une pirouette pour repartir en arrière pour pas proposer
le 3
tout de suite.
Ils ont travaillé le 3 en parallèle, en fait c'était une autre équipe qui s'en occupait. Le 3 a demandé un petit peu plus de temps, mais c'est vrai qu'il y a eu certains personnages qui n'ont pas forcément été très bien accueillis dans leur version rajeunie, notamment Chun-Li qui arborait cette fois-ci un pantalon. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'était l'occasion aussi d'avoir un nouveau chara-designer qui apportait justement un petit peu de nouveauté et qui a retravaillé des personnages qu'on connaissait, parce que mine de rien, les adversaires du premier Street que sont Adam et Birdie, il fallait leur inventer une palette de coups un petit peu plus riche. C'était la première fois qu'ils étaient jouables, donc il y a quand même eu un sacré travail et visuellement on sent l'héritage aussi des productions Capcom qui sont sorties dans les mois qui ont précédé, notamment évidemment Darkstalkers et X-Men Children of the Atom aussi, qui leur avait permis de se faire la main sur ce côté un peu cartoon, très coloré, très in your face, avec beaucoup d'effets à l'écran. Et ça a très bien marché, puisqu'on aura eu 3 opus, dont 03, qui est encore quand même joué en compète et qui reste un bijou aujourd'hui.
Rien que pour son World Tour, le 3, de toute façon, il est phénoménal. Merci pour cet anniversaire, Thomas. On va passer, comme chaque semaine, au hors-jeu. Et le hors-jeu de cette semaine, il me plaît bien. Voilà, je le dis. Quand j'ai eu la proposition de Romain, je dois vous avouer qu'on avait le choix entre deux choses. On ne va pas parler de celle que Thomas avait proposée, parce qu'il va peut-être sûrement nous en parler la semaine prochaine. Peut-être. Mais celle de Romain, j'avoue qu'elle m'a plu tout de suite. C'est un documentaire sur un catcheur, mais pas n'importe quel catcheur. Une légende. Je regardais le catch à l'époque, il était déjà là, donc c'est pour dire que 55 ans aujourd'hui, si je ne m'abuse, ouais. 2m08 d'amour et de muscles, l'Undertaker, messieurs, dames, Romain, il y a un documentaire qui lui est consacré sur la WWE Network.
Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a eu le documentaire de Michael Jordan, The Last Dance, il y a quelques ouais. semaines. Là, on passe sur The Last Ride, sur l'Undertaker, et il y a quand même des parallèles à faire entre les deux. Mais pour situer, pour les gens qui ne connaîtraient pas le catch, en fait, quand on parle du catch américain et des catcheurs à des gens qui ne connaissent pas forcément la discipline ou qui ne l'ont pas suivi, il y a des noms qui reviennent, même chez les non-fans. Hulk Hogan, évidemment, c'est peut-être le plus connu d'entre tous. Maintenant, The Rock, parce que The Rock et John Cena, parce que oui, par rapport à ce qu'ils ont fait au cinéma, etc. Mais dans le domaine purement catchesque, il y a l'Undertaker qui revient très souvent. Tout le monde a entendu ce nom-là au moins une fois. Et dans le monde du catch, on va dire que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une divinité, l'Undertaker. Parce qu'on sait qu'au fil des décennies, on va dire à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le voile a été levé sur ce qu'est le catch pendant très longtemps. Jusqu'au milieu des années 80, on va dire, le catch était une discipline ultra protégée pour diverses raisons, où quand on allait interroger un catcheur dans la rue, qu'on lui disait « c'est bidon ce que tu fais », tu risquais de te prendre une mandale pas du tout chiquée pour te dire « c'était bidon ça ». Et quand les catcheurs se parlaient entre eux, les gentils ne devaient jamais être vus en compagnie des méchants, ils avaient un langage codé, etc. Tout était fait au moins ils essayaient de faire en sorte que le secret de du côté prédéterminé du catch soit protégé. Même si ce secret a été révélé dans les années 80, l'Undertaker faisait partie des exceptions au sens où il répondait à très peu d'interviews, il se montrait rarement en public, il participait pas aux cérémonies où les catcheurs étaient hors personnage. Lui, en fait, il préservait sa mystique en étant, en se cachant, on va dire, et ce côté très sombre, etc. Donc, il avait réussi à entretenir le mythe, même si, comme pour tous les autres catcheurs, on savait qu'il n'était pas vraiment mort-vivant ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, il avait gardé une aura et sa présence, qui s'est fait de plus en plus rare au fil du temps parce qu'il vieillissait et parce que sa condition physique ne le permettait plus. Il a gardé son aura, et même encore aujourd'hui, l'Undertaker qui arrive, c'est quelque chose. Et
il n'avait pas pris sa retraite?
Alors,
parce que j'allais dire encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que...
Il y a trois ans, en fait, alors avant de dire ça, en fait, WrestleMania, c'est, on va dire, la finale de Coupe du Monde du catch, c'est le Super Bowl du catch, c'est une fois par an, et c'est le plus gros pay-per-view où les rivalités majeures de l'année trouvent leur conclusion, où les matchs les plus importants ont lieu, etc., etc. Il s'avère que l'Undertaker, il s'est créé une série de victoires ininterrompu à WrestleMania, jusqu'à WrestleMania 30. Chaque partie, il était à 22 victoires et 0 défaites, et c'est le seul catcheur de l'histoire à avoir été invaincu pendant si longtemps à WrestleMania. Donc WrestleMania 30, il perd pour la première fois. C'était en 2014 de mémoire. Et donc là, sa carrière, et on va doucement vers la fin, parce que les conditions physiques ne sont plus ce qu'elles étaient, et que le catch, c'est un métier qui use, hein, physiquement. Quand tu prends des coups comme ça et que tu tombes à longueur de vie pendant des années et des années, ton corps, au bout d'un moment, il en peut plus. Surtout que l'Undertaker, sur ces dernières années, il avait eu un regain de forme, et où il avait adopté un style de catch très intense et très rapide. Pour quelqu'un qui fait plus de 2 mètres et son poids, c'était pas forcément compatible. Mais donc là, ouais, son corps était sur le point de dire stop. Et à WrestleMania 33 en 2017, il fait un match contre le chouchou du propriétaire de la WWE du moment. Et c'était censé être son dernier match. Et donc, sachant que dans sa tête, il avait déterminé que ça serait son dernier match, il avait accepté pour la première fois de sa carrière d'être suivi en permanence par une équipe de réalisateurs pour un documentaire, en fait, où sa vie hors catch serait montrée, et ses états d'âme seraient expliqués, sa préparation pour le match, etc., serait montrée. Donc, c'était le plan de base. Donc, ils l'ont filmé pendant plusieurs semaines avant ce match-là. Le problème, c'est que ce match-là a été une catastrophe pure et simple. Il y a eu plein de ratés. L'Undertaker était cassé dans tous les sens. Il n'était pas du tout en condition physique pour catcher. Donc le match s'est complètement raté. Et comme on a pu le voir dans The Last Dance avec Michael Jordan ou chez les athlètes de haut niveau d'une règle générale, d'une manière générale, ils ont un certain ego, une certaine opinion d'eux-mêmes. Ils veulent pas laisser les gens avec une image d'eux au plus bas, tu vois. Donc, même s'il avait décidé de prendre sa retraite, la qualité du match lui a laissé un arrière-goût amer. Et tu le vois dans le documentaire, quelques mois après le match, il le regarde pour la première fois. Et tu le vois avec sa femme, il est sur son... Déjà, voir l'Undertaker sur son canapé avec sa femme chez lui,
alors, c'est bizarre. On le voit dans son intimité, dans la vie tous les jours.
Complètement, on le voit avec ses enfants, etc. Et il te le montre en train de regarder le match pour la première fois. Et quand il y a des ratés, tu le vois grimacer et tu vois dans sa tête qu'il n'est pas content d'être resté là-dessus. Et donc, il subit une opération de remplacement de sa hanche gauche ou droite, parce que l'autre avait déjà été remplacée il y a plusieurs années, mais là, ce qui lui causait beaucoup de douleur, c'était l'autre, donc il l'a fait remplacer, et on voit l'opération, hein, ils font même des plans assez hardcore pendant la procédure, et donc il se sent physiquement plus à l'aise après. Et tu vois, un catcheur, quand il sent qu'il arrive à se déplacer sans avoir trop mal tout le temps, etc., il dit, peut-être que je pourrais en refaire un, tu vois. Et il commence à regagner confiance et à s'entraîner. La WWE lui fait livrer un ring chez lui. Donc, il loue un entrepôt désaffecté où il fait installer un ring pour s'entraîner. Et tu vois, progressivement, il prépare un comeback. Ce comeback, là, donc l'année d'après, se passe bien. Mais là, le problème, c'est que le match n'est pas assez long à son goût. Lui, il était prêt à faire un match d'une demi-heure et pour laisser une dernière image grandiose au public, et là il lui laisse que genre même pas 5 minutes, tu vois, et donc, et là c'est une autre frustration qui se crée. Et donc là pour l'instant il y a eu que les 3 premiers épisodes de la série, mais tu le suis vraiment dans les coulisses, chez lui, dans les coulisses de la WWE, avec les médecins, pendant son entraînement, et il y a plein de séquences où il est tout seul face caméra, où il explique ses états d'âme du moment, pourquoi il a pris telle ou telle décision, et en fait, il est en tenue civile, et c'est pas le mec qui parle avec sa grosse voix comme ça, et qui retourne ses yeux en arrière, etc. C'est le, il s'appelle Mark, hein, son vrai prénom c'est Mark Calloway. Là, c'est Mark Calloway qui s'exprime au public et aux fans pour la première fois. Et on ne l'a jamais entendu s'exprimer comme ça et aussi longuement et expliquer sa façon de penser.
C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, depuis ses tout débuts, je crois qu'on ne l'a jamais vu en dehors de son personnage. Genre, jamais.
Il avait peut-être fait une interview au début des années 2000, mais qui était relativement passée inaperçue. Ces dernières années, comme il a un peu baissé sa garde, on va dire l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, il avait fait une interview avec un pasteur américain où il parlait un peu de manière naturelle. Mais globalement, dans le monde du catch, il avait vraiment préservé la chose. Il n'était jamais rentré autant dans les détails et sur sa manière d'envisager le catch, sur sa manière de gérer les matchs. Et tu le vois aussi avec ses collègues. Comment il interagit avec eux, le respect qu'ils ont pour lui, aussi d'autres catcheurs qui ont autant d'expérience que lui, comment ils essayent de venir le réconforter quand ils se rendent compte que ça s'est mal passé, etc. Le fait au moment où comment il a réagi au moment où il pensait avoir vraiment pris sa retraite, parce que pour un catcheur c'est toujours un moment compliqué. Je sais pas si vous avez vu le film The Wrestler avec Mickey Rourke, il y a certains catcheurs qui n'arrivent pas à passer ce cap, et donc tu le vois dans les 3 épisodes qui ont été diffusés jusqu'à présent, dire que cette fois c'est la fin, mais en fait non. Et cette fois, c'est la fin. Mais en fait, non. Et sa femme à côté qui témoigne elle aussi, qui dit « Oh, j'en ai marre », etc. Et quand il va la voir, elle dit « Ouais, je pense que je peux le faire, celui-là ». Elle dit « Non, pas encore. C'est pas possible. On va jamais en être débarrassé. Sachant qu'elle, sa femme a été catcheuse aussi à un moment. Et donc, ouais, il y a tout cet aspect familial, tout cet aspect professionnel. Le respect aussi que l'Undertaker, parce que c'est un catcheur qui a été extrêmement fidèle à la WWE/WWF, qui n'est jamais parti depuis 1990. Et donc même Vince McMahon, qui est donc le propriétaire de la WWE, qui est un mec qui est très dur, qui est un supporter de Trump à fond, donc dont la femme a fait partie de l'administration Trump, donc ça vous donne l'idée du type de personnage que c'est. Même ce mec-là se met à pleurer pendant une des interviews en parlant de l'Undertaker. Il demande aux caméras de couper, etc. Parce qu'ils ont créé un rapport au fil du temps très, très fort. Et donc ça donne une autre vision du monde du catch. Ça donne une autre vision, surtout de l'Undertaker. Et je pense que c'est un truc qui peut être intéressant même pour les non-fans. C'est un peu comme The Last Dance, ça a pu être intéressant pour des gens qui ne s'intéressaient pas nécessairement au basket. Là, c'est un peu le même truc. Après, c'est sur le WWE Network, donc il faut accepter de s'abonner à ce truc-là spécifiquement pour regarder ça. Mais c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a des gens comme toi, Plume, qui ont pu regarder un peu le catch au milieu des années 80, début 90, qui pourraient être intéressés par cette vision de l'Undertaker. En tout cas, le truc est encore en cours. Et donc moi j'ai hâte que les autres épisodes arrivent. C'est vraiment très intéressant.
Alors attends, parce que je suis en train de regarder au même moment pour WWE Network pour voir pour l'abonnement. Je me demandais s'il y avait une version d'essai, tu vois, ou
jusqu'il y a peu, il faisait le premier mois gratuit.
Bah écoute, je viens de tomber sur un truc là. Aujourd'hui, lundi 1er juin, la première version gratuite du WWE Network a été mise en ligne.
Oui, oui.
C'est pas beau ça ?
Je suis au courant, mais le problème c'est qu'il n'y a pas tout le contenu dessus.
Ah.
Et comme ça, c'est un des trucs les plus vendeurs du network, je pense pas que ça fasse partie des contenus gratuits. Malheureusement pour toi, Plumeau.
Mince. Enfin, je vais trouver une solution parce que je vais quand même pas m'abonner à WWE Network. C'était à longtemps pour moi le catch. Hein.
Je
trouverai une solution. Je trouverai une solution. Mais moi, en tout cas, je suis très très intéressé de voir l'Undertaker. Dans la vie de tous les jours, parce que autant tu vois des gens comme Hulk Hogan. Qu'on a pu voir dans d'autres conditions, tu vois, mais des mecs qui sont restés dans leur personnage Tu vois, un petit peu comme l'Ultimate Warrior était resté dans son personnage, comme Macho Man aussi, enfin Randy Savage était resté dans son personnage. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir justement comment ils sont à côté, parce que c'est des mecs qui sont restés assez discrets, finalement, dans leur vie réelle, contrairement à, je disais, Hulk Hogan ou Roddy Piper ou d'autres qui arrivaient, eux, à... Ou The Rock, évidemment, ou même John Cena aussi, qui, en dehors de la scène, fait aussi des films... ou autre. Donc j'aime bien quand les mecs, on les voit pas que dans leur costume, tu vois.
Tu vois, l'Undertaker, enfin chaque année, la veille ou l'avant veille de WrestleMania, il y avait la cérémonie du Hall of Fame. C'est comme une sorte de c'est comme le Rock and Roll Hall of Fame, le Basketball Hall of Fame. C'est là où sont intronisés les meilleurs, comment dire, représentants de leur discipline. Et ça, c'est une cérémonie qu'il y a chaque année. Et tu vois, tu as tous les catcheurs et leurs épouses et parfois leurs enfants dans le public en costume, en tenue de ville, etc. Et même là, l'Undertaker refusait de participer à ce truc-là. Ah ouais ? Alors que c'était lui qui était considéré un peu comme le boss des vestiaires de la WWE, il n'était jamais dans le public pour ce truc-là. Il a fait une apparition une fois quand son manager est décédé. Et qu'il a été, que son manager, ex-manager, a été introduit dans le Hall of Fame de la WWE. À la fin du speech, il était arrivé en costume et il avait salué l'écran et il était reparti. Mais tout ça, toujours dans son personnage, il a jamais participé à ce truc-là. Et donc là, il baisse enfin la garde parce que tu sens qu'il réalise lui-même qu'il est sur la fin. Mm. Et donc il avait envie de partager ça avant qu'il soit trop tard et garder une trace de tout ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour faire la promo du documentaire, il enchaîne les interviews, ce qu'il n'a jamais fait avant. Donc, il y a plein d'anecdotes qu'il révèle au fur et à mesure. Comme ça, c'est assez amusant pour qui ça intéresse, évidemment.
Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai vu Sergeant Slaughter sans le costume, ça m'avait fait un sacré foutu choc. Hein. C'était dans un truc du Hall of Fame, justement. Je crois que c'était une table ronde avec d'autres anciens catcheurs où ils s'exprimaient et ça faisait quelque chose de très étrange. Ouais.
Et c'est surtout aussi, tu vois la fierté et le côté adrénaline que procure le catch, parce que le catch, c'est un peu comme une représentation théâtrale dopée aux hormones, tu vois, où tu as une réaction immédiate du public. Et ça change tout, en fait. Et moi, j'avais interviewé John Cena il y a 10 ans maintenant, ça c'est la vache. Et je me souviens un truc qui m'avait marqué, c'est que ça se passait dans un hôtel à Paris, et quand tu le voyais arriver dans l'hôtel, il marchait tout recroquevillé, tu voyais que le mec avait mal au dos, qu'il avait mal partout, etc. Mais à partir du moment où il savait qu'il y avait du public et qu'il y avait la caméra, etc.
Ah bah il est en présentation.
Il se redressait, il marchait plus du tout de la même manière. Et là, tu regardes l'Undertaker dans le premier épisode, surtout au moment où physiquement il est vraiment au plus mal, il boite. Il boite et il a mal partout. Mais à partir du moment où il a mis son chapeau, que le gong a retenti et qu'il faut y aller, je ne sais pas s'ils ont un switch ou quelque chose qui permet de mettre de côté temporairement la douleur. Mais là, il marche droit. Tu vois qu'il n'est plus aussi fringant qu'il l'a été. Mais malgré tout, il essaye de faire bonne figure au maximum. Alors qu'en fait, il est au fond du trou. Tu vois, quand il le déplace dans les coulisses, ils sont obligés de prendre un petit caddie, tu sais, les caddies de golf là où il est. Il le déplace en le conduisant parce que ne serait-ce que marcher, ça lui fait mal, tu vois. Alors qu'à côté de ça, pendant un quart d'heure, il va se prendre des coups de chaise et tomber dans tous les sens.
Moi, je le soupçonne d'avoir pris des cours avec Vincent Lindon, mais ça, c'est une autre histoire. Vincent Lindon qui perd ses tics dans un film.
Psychologiquement, ça peut être le même truc. Hein.
C'était que tu es en représentation. On oublie tout ce qui se passe autour et on redevient.
Une autre scène rigolote, si tu le vois, parce que quand tu es catcheur, ils arrivent en début de journée au stade, mais la représentation commence que le soir. Donc, même s'ils ont le temps de s'habiller, de s'échauffer, etc., il y a quand même beaucoup de temps à attendre. Et tu le vois jouer aux cartes. Tu le vois jouer aux cartes avec le. Je crois que c'est avec le médecin qui est toujours en stand-by. Pendant les représentations, et tu le vois, et les gens qui vont et qui viennent, et lui il vanne les autres catcheurs qui arrivent, etc. Enfin, c'est vraiment une autre facette du truc, et c'est vraiment intéressant.
Voilà. Bah écoute, en tout cas, moi ça m'a donné super envie. Thomas, je sais pas.
Thomas, c'est normal. Après, je comprends, hein, le catch c'est vraiment très très particulier.
Vous savez que je ne regarde pas grand chose moi déjà de base, donc.
C'est vrai. Donc sur WWE Network, ça s'appelle The Last Ride, et on est à combien d'épisodes au moment où on.
3 pour l'instant, monde, il y en a pas eu. C'est le dimanche. Il y en a pas eu dimanche dernier. Mm-hmm. Il devrait reprendre. Ça va pas être. Il y aura pas énormément d'épisodes, hein, mais ça va reprendre bientôt.
Bon, en tout cas, si vous êtes fan de catch et que c'est les légendes. Les légendes comme The Undertaker vous intéressent, eh bien, si vous vous concentrez pas que sur les gifs de l'Undertaker qui se lève comme ça une fois qu'on parle de Sony, qu'annonce un jeu ou un truc comme ça, eh bien, vous pouvez y aller, je pense. Et en tout cas, je vais faire de mon mieux pour me diriger dessus. Tu connais l'Undertaker, donc ?
Bah, je connais les gifs, ouais.
Ah, voilà. Bah, voilà.
Bah. Ah, bah, c'est un catcheur qui est énormément gifé, on va dire. Ah,
c'est le mec qui tombe de son siège.
Ah non, ça, c'est le patron. Le mec qui est en extase oui. Et qui tombe, ah bah lui c'est un pro-Trump qui c'est lui qui craque en parlant de l'Undertaker pendant le truc, d'accord. Parce que ils ont un lien trop fort.
J'irai chercher les gifs quand même, ça peut toujours servir quasi au bon moment.
Et qui s'était fait tondre par Trump sur le ring.
Oui aussi. Ah mais ce sont des amis de longue date.
Ah oui, bah, moi un ami me tondra pas la tête, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, merci Romain pour ce hors-jeu. Oui. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir se dire adieu, mon cher Jimmy Somerville. Je ne sais pas comment on va se dire adieu, mais on va essayer. En tout cas, merci Thomas, merci Romain pour votre participation à ce podcast. Merci Poufy, dont le rire, le petit pouf, arrive de temps en temps à nos oreilles, mais que vous n'entendez pas, malheureusement. Peut-être un de ces quatre, on ne sait jamais. Merci évidemment à vous de votre fidélité, de nous suivre encore avec attention durant ces podcasts qui sont semi-confinés maintenant. On va bientôt arriver à quelque chose d'un peu plus... Mais quand il y aura moins de virus quand même. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction où il devrait être question, normalement, très fort. Alors attendez, je regarde les dates quand même parce que je suis pas sûr en fait. Hein.
Ouais, est-ce que tu pars dans un truc là ?
Ah ouais, non, la semaine prochaine on va reprendre l'actualité, tout simplement. Donc on va pas parler d'autre chose. Voilà, j'en dis pas plus.
Tu connais le concert d'ascenseur émotionnel, parce que là t'es en train de nous vendre un truc et puis attendez, je regarde. Ah mais non.
Ah oui, parce que la semaine prochaine peut-être qu'on saura c'est quoi. Enfin, c'est quoi ? Voilà. Comment
c'est je parle.
Donc on saura de quoi il était question pour Sega. Parce que là, au moment où on enregistre, nous, on ne sait pas c'est quoi le gros scoop de Famitsu. Ah ouais, là, il faut qu'on sache. Hein. C'est ce qui m'intéresse le plus.
Attendez-vous à du lourd, les amis.
Oh là là, oui. Alors, attention. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bisous, bisous.
Ciao. Bisous.